Tellement j'ai l'air de dire qu'il est tout puissant. Oui, je pense que vous avez compris la difficulté. Maintenant, dans le sens du vocabulaire kabbaliste, ça a un sens positif. Mais en quel sens pour lui-même? Nous allons vous aider de cette Mishnah. Et nous vivrons à travers cette Mishnah. Alors je vais vous donner l'explication. Vous verrez qu'elle est finalement très simple, mais sans rentrer dans le vocabulaire lui-même. C'est-à-dire, la définition de Dieu comme créateur, c'est qu'il est l'être qui donne l'être. Puisque la définition de la créature, c'est l'être qui reçoit l'être. Mais qu'il y a toujours une implication morale dans les catégories métaphysiques qu'emploie le vocabulaire de la Torah. Lorsque le premier verset de la Torah nous dit « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre », elle sait très bien que je ne peux pas comprendre qu'est-ce que ça signifie « créer » dans le sens métaphysique. Mon entendement humain ne dispose pas d'une compréhension du terme de « créer ». Et pourtant, elle me le dit. Bon, à deux niveaux. Elle est censée parler à ceux qui comprennent la langue qu'elle emploie, ceux qui parlent la chose Ben et Adam. Mais d'autre part, elle a demandé à être mise par écrit, et donc elle peut être lue, même par ceux qui ne comprennent pas. Donc ce risque a été pris. Mais en vue de transmettre quoi? Elle sait très bien que je ne comprendrai d'ailleurs ni au commencement, ni Dieu, ni créa. Aucun des termes n'est clair pour l'entendement humain. On peut faire l'exercice pendant des heures, mais vous apercevrez que aucune lecture dite rationaliste de la Torah n'est possible, parce qu'on ne comprend aucun des termes. Au commencement, ça ne fait pas partie de la raison humaine. Dieu, je ne sais pas. Si la Torah n'avait pas parlé de Dieu, je ne sais pas. Et puis, créer, qu'est-ce que ça veut dire créer? Je n'ai pas cette notion dans la raison. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc, elle sait très bien que je ne vais pas comprendre le sens métaphysique du mot créer. Pourquoi elle me le dit quand même? C'est pour me transmettre un enseignement d'ordre moral. Dès que j'entends que le monde est créé, ça veut dire que le monde n'existe que dans la mesure où il reçoit l'être du Créateur, c'est-à-dire de celui qui lui donne l'être. Et cette prise de conscience que j'ai un Créateur, c'est le fondement même de la conscience morale. Pourquoi? Parce que je ne dispose que d'un être qui me vient de quelqu'un d'autre. Un être que je reçois. Et pour qu'il soit mien, il faut que je le mérite. Dès que je prends conscience de moi comme un être qui reçoit l'être, la conscience morale est fondée. Donc il était nécessaire que la Torah m'enseigne cela comme préface, que je n'existe qu'en tant que je suis créé. Mais ce n'est pas un enseignement d'ordre métaphysique. Est-ce que c'est clair? Bon, alors je parle de cette définition. Dieu comme créateur, ça veut dire l'être qui donne l'être. Et qu'est-ce que c'est que le yetzer de l'être? C'est ce qu'on appelle en hébreu la hitpashtut. C'est-à-dire l'être absolu emplit tout l'être. La tendance à être, c'est être. Donc a priori, il n'y a pas de place pour un autre que l'être absolu. Et pour qu'il y ait place pour l'autre, il faut que je restreigne ma propre hitpashtut. Il faut que je restreigne mon être pour faire place à autre. Alors qu'est-ce que ça veut dire kovesh et yitzro pour le Créateur? Ça veut dire restreindre mon absolu pour faire place au monde. Alors c'est ça, Gibor.
Profondeur.
Oui, c'est ça, Gibor. Très exact. C'est ça, Gibor. Ça veut dire... Qu'est-ce que je veux dire lorsque je dis que Dieu est Gibor, qu'il est plus fort que lui-même? Ça veut dire qu'il réprime, d'une certaine manière, l'absolu de son être pour pouvoir faire place à l'être de la créature. Vous voyez que ça a un tout autre sens. Bien? Nous n'avons plus, à ce niveau-là, nous n'avons plus de problème d'anthropomorphisme. Et c'est par imitation à cette Gibora que la véritable Gibora de l'homme en tant que qualité morale, sera défini. Vezeu Gibor pour l'homme, Akoresh et Titzro. Qu'est-ce que ça veut dire? Tout simplement, me réprimer pour faire place à autrui. Être plus fort que moi pour que l'autre ait une place. Donc c'est une vertu d'ordre moral. Je pense que c'est clair. La véritable vaillance, c'est précisément la moralité elle-même. Mais vous voyez que nous avons complètement inversé le critère. Le modèle est dans l'être absolu, et nous pouvons comprendre la signification de la vertu pour nous, à notre échelle, de l'être relatif, que par imitation du sens que ces catégories ont dans l'être absolu. Est-ce que c'est bien clair? Vous avez compris la version des deux? Si vous voulez, je vous donnerai aussi l'exemple pour Gadol, puisque Aël a Gadol, a Gibor, a non. Nora, c'est un peu plus difficile. Nora, c'est Nora. Je me baserai sur un enseignement du Malbim, sur un verset de Psaume. Le verset qui dit Gadelou Lachem Ikti, Nromema Shemo Yarda. C'est-à-dire Gadelou Lachem Ikti, Nromema Shemo Yarda. Reconnaissez avec moi la grandeur de Dieu, Gadelou Lachem Ikti, Nromema Shemo Yarda, et nous reconnaîtrons l'élévation grave de son nom ensemble. Le Malbim explique que ceci est un verset qui doit être compris dans la bouche d'Israël s'adressant au Goïm. Et il se base sur un deuxième verset des psaumes qui gadol Hashem betzion veram hu al kol ha'amim. C'est-à-dire parce que Dieu est grand, gadol, à Sion, et il est élevé sur tous les peuples. Quelle est la différence? Gadol signifie la grandeur accessible, alors que Ram signifie la grandeur inaccessible. C'est-à-dire la manière dont les Goïm connaissent la transcendance de Dieu est inaccessible. C'est pourquoi ils inventent des médiations pour pouvoir s'y relier. Et donc ils connaissent Romemut, mais ils ne connaissent pas Gdoula. Et qu'est-ce que c'est que la Gdoula? C'est le fait que celui qui est grand s'occupe de plus petit. Donc, encore une fois, c'est exactement le contraire de ce que le terme signifie au niveau de l'identité humaine, relative. Au niveau de l'absolu, elle a un sens positif, mais il faut inverser les critères de comparaison. Est-ce que c'est clair aussi pour la notion de Gdoula? Alors, vous savez, dans le vocabulaire hébreu, Gdoula équivaut à Chesed. Comment est le verset? Alors, si nous disons dans la prière tous les matins, Lecha Hashem, Agdoula, Agdoura, Batiferet, Vanetza, Vaod, Kichol, Vashamaim, Uba. Lecha Hashem, Amamshala. Vous voyez, Gdoula, c'est Chesed. Chesed, Gdoura, Tiferet, Nesha. C'est-à-dire, de qui on dira qu'il est grand dans le terme de Gadol, Gdoula, Chesed, c'est de celui qui, bien qu'étant grand, s'occupe de plus petit que vous. Vous aurez tout de suite une référence que j'ai peut-être citée une fois à propos de l'histoire de Moïse. Le verset dit ceci. Vaïdala Yeled. Attendez, nous allons voir la référence sur le texte lui-même. C'est dans Shemot chapitre 2.
Verset 10
du chapitre 2, Vaïdala Yéled, lorsque Moïse a été sauvé par la fille de Pharaon et l'enfant a grandi, Vatevi ou Levat Paro, sa sœur qui était sa nourrice l'a amené, sa mère qui était sa nourrice l'a amené à la fille de Pharaon, Vaïla Aleben, et elle fut issue pour elle comme un fils. Verset suivant. Alors, Rachid explique ceci. Le premier Vaïgdal, Amar Rabbi Yehuda, Arishon, le premier Vaïgdal, les comas. C'est-à-dire qu'il a grandi en stature. Il a grandi physiquement. Vaïgdal a yelet. L'enfant a grandi, ça veut dire qu'il a grandi physiquement. Vaïchemil Gdoula. Et le deuxième Vaïgdal, c'est pour la grandeur. Je voudrais vous citer ici un enseignement qui vient de la yeshiva de Ber Yaakov. Il va chercher la yeshiva de Ber Yaakov, qui est le Rav Volbe, je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui, qui a dit ceci, il faut lire ça, Psha. Qu'est-ce que c'est que la Gdoula? Qu'est-ce que c'est que la grandeur? Le verset nous le dit. Vaïdal Moshe, Vaïetse Elechal. C'est ça la grandeur. C'est le fait qu'il soit sorti vers ses frères. C'est-à-dire, la véritable grandeur, c'est la grandeur de celui qui s'occupe de plus petit. Et donc là, que nous avons un exemple clair que finalement tous ces termes de louange ont un sens positif à condition qu'on le comprenne par rapport aux catégories de l'être absolu. Et donc toute la stratégie de la théorie d'explication par l'anthropomorphisme devient nulle. C'est bien. Alors nous allons avancer dans le thème. Vers Rabbi Hanina. Et ce même Rabbi Hanina a enseigné aussi. Hakol bide shamaim, chutz minirat shamaim. Littéralement, tout est entre les mains de Dieu. Hakol bide shamaim, chutz minirat shamaim. Sauf la crainte de Dieu. Shenema. Ensuite, nous demanderons la liaison entre les deux enseignements. Shenema, ainsi qu'il est dit, verata Israël. Et maintenant, Israël. Ma Hashem Elokecha Shoel Meimar. Qu'est-ce que Hashem ton Dieu réclame de toi, de ta part? Kiim Leira Oto. Uniquement, Kiim, uniquement de le craindre. Donc, comment est le raisonnement de Rabbi Hanina? Si le verset dit que ce qui est réclamé de la part de l'homme, c'est uniquement la Ira de Dieu, Ira Shamaim, c'est donc que Dieu possède en lui-même toute valeur sauf celle-là, puisque c'est précisément celle-là qui est réclamée de la part de l'homme. Donc, d'où le principe, Akol bide shamaim, chut mira shamaim. Est-ce que c'est bien clair jusque-là? Oui, premièrement, le raisonnement à propos du verset à partir du verset. Ata Israël, manashem elokecha shoel meimar, kiim, uniquement l'ira. Vous avez d'ailleurs la suite du verset, la ira entraîne d'autres vertu, mais la forme même des termes employés par le verset implique ce qu'enseigne Rabbi Hanina, c'est que donc Dieu décide tout de lui-même, possède tout de lui-même, une seule valeur procède de l'homme en particulier, c'est la ira. Nous allons voir comment d'ailleurs les deux enseignements se relient. Alors ici, la Gemara objecte à tout. Irat Shamaim, Milta Zutratahi, est-ce que cela signifie que la Irat Shamaim, que la crainte de Dieu, est une petite chose? Milta Zutratah, ça veut dire une petite chose que le texte dise qui im, uniquement, si ce n'est que cela. Est-ce que c'est une petite chose que le verset puisse dire que cela? Ça veut dire, l'exhortation serait donc ainsi, selon l'enseignement de Rabbi Hanina. Ne crois pas que ce que Dieu réclame comme effort de ta part soit quelque chose d'inaccessible, ce n'est que de le craindre. Et d'où le principe, donc, c'est que Dieu possède tout par lui-même, sauf la Ira Shamaim, puisqu'il la réclame de l'homme. Mais objection de la Gemara, est-ce que c'est une petite chose? Veha Amar Rabbi Hanina Mishum Rabbi Shimon Bar Yochai. Et pourtant, on a enseigné au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Enlo le Akadosh Baruch Hu le Bet Nazar. Dieu ne possède en ses trésors et la Otsar chez Irat Shamaim. Uniquement un trésor de Irat Shamaim. Un trésor de crainte de Dieu. Ça veut dire que l'enseignement a été donné que la véritable valeur que Dieu possède, c'est la Irat Shamaim. Comment le verset peut parler de la Irat Shamaim comme une petite chose? Tout ceci se plaira. Hein? Chenéma, d'après un verset d'Isaïe, Irat Hashem Yotzaru. C'est la ira de Dieu qui est son trésor. Réponse in. In, ça veut dire. En araméen, ça veut dire.
Oui.
Hein?
Oui.
Oui. C'est pas non, c'est oui. In. Les gabé Moshe Mitazukatai. Par rapport à Moïse, c'est une petite chose. Parce que Moïse exhorte Israël et dit à Israël, et maintenant, qu'est-ce que Dieu réclame de toi, Israël? Uniquement de le craindre. Alors la Gemara objecte, comment tu peux dire uniquement de le craindre? Mais nous savons d'autre part que c'est une grande chose, le respect, la crainte des valeurs. La Gemara répond, Moïse peut dire uniquement, parce que par rapport à lui, c'est une petite chose. D'Amar Rabbi Hanina, d'après ce que Rabbi Hanina a enseigné, Machal, à quoi cela ressemble? Les Adam, chez Mevachim, Menou, Tzugazor, Veyeshlo, à quelqu'un de qui on réclame une chose importante, mais il la possède, Domé Allah Kiki Katab. Ça lui semble être une petite chose. Vous voyez, toute la théorie de la valeur économique est là. Si je possède ce que me demande, Alors, puisque je le possède, c'est comme si c'était une petite chose. Katar Vello, mais si on me demande une petite chose, mais je ne la possède pas, Domé Arla Fitoubadol, et cela apparaît comme si c'était une grande chose. Alors revenons un peu au sujet. Le principe de base, c'est que ce que Dieu possède vraiment, c'est ce qu'on ne procède pas de lui. Et donnant l'être, Dieu donne tout, sauf le fait que la créature le reconnaisse comme son souverain. D'une certaine manière, il y a là une analyse extrêmement profonde dans cette Gemara. D'une certaine manière, ce qui a le plus de prix aux yeux de Dieu, ce n'est pas ce qu'il donne lui-même, mais la seule chose qu'il ne peut pas donner, le fait qu'on le reconnaisse librement, et c'est donc la Yirat Shamayim qui est la principale valeur. D'où l'expression « Akol Mide Shamayim » ou « Yirat Shamayim ». Tout est entre les mains de Dieu, sauf le fait qu'on le reconnaisse. Et par conséquent, l'implication immédiate, c'est que c'est la principale valeur que Dieu possède dans son trésor, dans vos stars.
Dans ses réserves.
Bon, dans son trésor, c'est donc la valeur de Yirat Shamayim. Ça signifie qu'au fond, la véritable louange, pour attacher au sujet général, la véritable louange, c'est la Yirat Shamayim. C'est-à-dire la véritable définition de la valeur de louange, ce que la louange peut désigner de façon authentique, c'est la Yirat Shamayim. C'est-à-dire que Dieu n'impose pas la reconnaissance de lui-même. Mais dans l'analyse de la relation entre la conscience et la valeur, apparaît un principe extrêmement important. La valeur s'impose à moi en toute chose, dans une dimension, le fait que je la reconnaisse comme telle. La valeur est exposée, elle est vulnérable. Bien qu'elle transcende absolument la conscience humaine, elle reste, si vous voulez, vulnérable à ce fait que je la reconnaisse ou pas. La valeur peut être violée, et cependant, je ne peux pas faire qu'elle ne soit pas ce qu'elle est. Je ne peux pas nier sa transcendance par rapport à moi, mais cependant je reste libre par rapport à elle. C'est le minimum commun de définition de Yirat Shamayim. Bien.
Ça rejoint la Mishnah et l'Omdini Palel, finalement, il nous achète de Yirat. Ce qui va être pris comme fondement, c'est le temps universel. C'est Yira, et on peut dire que l'explication du choix est aussi donnée ici.
Déjà. Je vais vous citer un enseignement que vous trouverez dans la préface du Tomer de Vora. Le Tomer de Vora est un livre du Ramat, c'est-à-dire de Rabbi Moshe Cordovero, et qui enseigne comment l'homme doit se comporter dans la vie morale, précisément par rapport aux choses extrémistes. C'est un tout petit livre, mais qui a une importance considérable. C'est un des livres les plus importants de morale pratique de toute la tradition juive, en particulier kabbaliste. Je pense que vous avez entendu parler du Ramat, de Rabbi Moshe Cordovero, qui a été de la génération précédente du Hari, il a d'ailleurs été un de ses maîtres, il a fait partie des grands de l'école de Safed, il y a 400-450 ans. Et dans la préface, on a cité l'enseignement suivant au nom du Rav Chaim de Wolodzin, qui est ceci. Donc je vous expliquerai à propos d'un verset qui se trouve dans la Akedat Yitzhak. Le verset dit qu'au moment où Abraham a accepté et Isaac ont accepté le sacrifice, à ce moment précis, l'épreuve a réussi, et donc Dieu envoie un ange pour empêcher le sacrifice. Et le verset dit « Ata yadarti ki yere Elohim ata » « Maintenant je sais que tu es craignant Dieu, que tu as Yirat Elohim, que tu as Yirat Shamayim. » Alors donc, dans la préface du Tomer de Vora, on a cité un enseignement du Rav Chaim de Wolodzin que j'expliquerai à propos de ce verset. C'est ceci. Toutes les midot de l'homme, toutes les vertus de l'homme, l'homme les connaît par imitation des vertus de Dieu. Sauf une, la Yirat Shamayim. Puisque c'est la seule vertu qui ne peut pas exister en Dieu, parce que de qui aurait-il crainte? Donc là, c'est l'inverse. La Yirat Shamayim, c'est Dieu qui l'apprend de l'homme, et non pas l'homme qui l'apprend d'eux. Et c'est ce que dit le verset « Ata yada ». Non pas maintenant je sais que tu es craignant Dieu, mais maintenant je sais qu'est-ce que c'est que la crainte de Dieu, parce que tu es craignant Dieu. C'est-à-dire toutes les vertus, Abraham les apprend de Dieu, mais la Yirat Shamayim, Dieu l'apprend d'Abraham. Est-ce que c'est clair? C'est vraiment une explication extrêmement importante, mais je vais complètement la contredire, hein. Faites attention. Jusque-là, c'est clair. Nous allons voir que c'est faux. Puisque, effectivement, là, les descendants du Raphaïm de Volodymyr, dans la préface au commentaire du Gaon de Vilna, de Sifra Dittino Hatta, c'est mon antique livre d'exposition, du Sifra Dittino Hatta, et ont critiqué cette citation prétendue du Raphaïm de Volodymyr. Mais d'abord, l'explication elle-même, parce qu'elle est très belle. Après, on verra qu'elle est fausse. Ça va jusque-là. Hein? C'est-à-dire que toutes les midot, c'est l'homme qui les apprend de Dieu, sauf la Yirat Shamayim, qu'il ne peut pas apprendre, qui ne peut pas, par définition, procéder. Ce serait un blasphème de dire et de qui Dieu a peur, de qui Dieu aurait le respect du supérieur. Et si j'ose, puisqu'on parle de choses très délicates, on va oser quand même, ça veut dire que ce sont les hommes qui reconnaissent la souveraineté de Dieu. Mais Dieu en lui-même n'a pas de souverain. D'une certaine manière, on dira que le seul être qui a le droit d'être athée, c'est Dieu lui-même. Vous voyez à peu près ce que je veux dire.
Le petit qui supporte le souverain.
Comment?
C'est le plus petit qui supporte.
Oui, exactement. Et donc, la Yirat Shamayim, il fallait attendre un homme qui est Yirat Shamayim pour que Dieu connaisse cette vertu. Voilà donc ce qui a été cité au nom du Raphaïm de Volodymyr dans le préfacier du Ramat. Ce n'est pas le Ramat qui le cite, c'est celui qui a fait la préface. Et en parlant de cette mida d'Yirat Shamayim. Et seulement, dans l'école du Raphaïm de Volodymyr, on a nié cela. Et je vais rattacher à l'analyse que nous avons eue de la notion de Gemura. En disant ceci, en réalité, cette mida de la Ira d'autrui, c'est très exactement la mida de la Gemura.
La mida?
De la Gemura. De la Yirat Shamayim. C'est-à-dire, on enseigne dans la Gemara l'explication du sens du mot El Shaddai. El Shaddai, qui est un des noms de Dieu, c'est She'amar le'elakuto dai, She'amar le'olamo dai, She'amar le'elakuto dai, qui a dit au monde jusque-là et pas plus, et qui a dit à sa divinité jusque-là et pas plus. C'est-à-dire, il y a donc une mida en Dieu qui s'appelle El Shaddai, et qui est la mida de Yirat Shamayim, de Dieu par rapport à sa créature, qui est la mida de Gevura. C'est-à-dire, vous vous rappelez, à Kovesh et Titzro, d'une certaine manière, Dieu dit à sa divinité, jusque-là et pas plus. Il y a une sorte de respect de l'autonomie de la créature, qui est très exactement le correspondant en Dieu de la mida de Yirat Shamayim. Est-ce que c'est clair?
Est-ce que Dieu a fait appel à cette
mida au moment
où Abraham
allait accomplir l'acte
pour
Itzhak et il a accepté? Oui, bien sûr. Mais vous avez surtout dans le premier verset de la parasha de Vaera, lorsque Dieu se révèle à Moïse en lui disant Vaera el Abraham et Itzhak ve Yaakov be'el Shaddai ushmi Hashem lo nonartilai. La révélation qui a été faite au patriarche, c'est la révélation pour cette modalité de El Shaddai. Vous savez d'ailleurs que c'est finalement employé dans le langage juif populaire. Lorsque l'on craint qu'il y ait irruption de la divinité dans le monde et il y aurait catastrophe, alors on invoque la mida de Shaddai, c'est-à-dire de la limite. Par conséquent, en réalité, il y a toutes les midot en Dieu lui-même, même celle-là, et c'est la mida de Gevura elle-même. Est-ce que c'est bien clair? Enfin, j'ai beaucoup schématisé, mais...
Je vois pas comment Gevura se dérache. Non, parce que effectivement, le fait de se retirer, le retrait crée la demande. C'est ça qui fait qu'on a besoin qu'on demande. C'est bien parce qu'il y a un retrait qui demande.
Écoutez, qu'est-ce que c'est la mida de Yirat Shamayim? Ça veut dire je m'interdis de porter atteinte à autre que moi. Moi, je suis en bas et je m'interdis de violer, de porter atteinte. J'ai le respect, la crainte de porter atteinte à ce qui est plus haut que moi. Mais dans la relation entre le créateur et la créature, pour que la créature puisse exister, il faut donc que le créateur s'impose de respecter l'être de la créature. C'est donc la même idée.
Donc, on pourrait dire que l'on n'est que quand on éprouve la yirat Hashem, finalement. C'est l'acte de naissance.
Oui. Kaved et Avicha et Imecha, c'est parallèle à Anochi Hashem.
Ce n'est pas un emprisonnement pour le créateur de se...
Mais comprenez qu'il s'agit là d'une vertu d'ordre moral. Vous voyez, nous sommes très loin de l'univers de la philosophie. Ça veut dire là, le Dieu créateur dont parle la Bible, c'est précisément Dieu qui restreint son absolu pour pouvoir donner une place à sa créature. Donc tout se passe comme si, de façon permanente, il y a une force qui joue dans la protection du monde et que le vocabulaire de la Bible appelle le ciel, Rakia. Vaikra est à Rakia Shamaim. Le ciel, Shamaim, protège la terre. Donc de la même manière qu'il y a la vertu pour l'homme de Yirat Shamaim, nous devons maintenant inverser le critère, il y a pour le Créateur la vertu de Yirat Shamaim. Dieu s'interdit de dépasser le ciel parce que la Itfashtut de son Yetzer annulerait la terre. Je ne sais pas quel vocabulaire employer pour imaginer cela. Imaginez cela. Mais je pense que vous pouvez l'imaginer par vous-même.
Oui,
bien sûr. C'est-à-dire, je vais essayer de le montrer par une sorte de geste physique. Hein. Et imaginez qu'il y ait à côté de moi plus faible que moi. Si je me laisse aller, j'écrase ce qui est plus faible que moi. Là, il y a ce geste de se retenir.
Okay. C'est ça l'amour.
Oui, c'est ça l'amour.
Mais en quoi c'est dire
ah, ça veut dire que j'ai peur de porter atteinte à ce qui est en dehors de moi. Je me retiens pour protéger l'autre. Ça veut dire que donc le rakia réprime l'absolu de l'aide du créateur pour laisser place à la créature. Et que de façon permanente, il y a en Dieu Irat Shamaim. Il a peur de traverser le ciel, parce que s'il arrivait sur terre, la terre s'annule. Tout ça est très imagé, mais je pense que vous avez compris un peu. Okay.
Est-ce que c'est pour cela que la Gemara emploie le terme Shomaim? Alors que la Torah parle de Yirat Hashem.
Exactement. Mamash de Yirat Hashem, vous verrez vous-même attentivement l'explication que Nachmani donne du mot de Rakia dans le Maaseh Bereshit. Il dit, depuis le temps de la création, depuis l'instant de la création, une force qui est Rakia, une force qui protège le monde créé. Et lorsque Dieu décide d'intervenir, là, tout à l'heure, je vais vous donner un peu de consolation sur votre question. Lorsque Dieu décide d'intervenir pour sauver le monde, avant que le monde n'ait encore suffisamment de mérite pour supporter, pour porter cette présence de Dieu, c'est dévastateur, c'est catastrophique. El Shaddai, c'est Shodon et Tamarachot. El Shodon. Imaginez que l'être de Dieu, créateur, traverse le ciel, le monde d'en bas serait annulé, qui est sur la vie. Donc il y a une force permanente, une force de tzimtzum. Maïmonide n'emploie pas ce terme, mais il s'agit de cette catégorie qui est Rakia, et qui est une force qui protège ce qui est à l'intérieur de Rakia. Donc, c'est ça la mida de El Shaddai. A Omer le Lakuto Dai. Dieu se dit à lui-même, jusqu'au ciel et pas plus bas. A Shamaim, Shamaim, Hashem, Ve'aret Natan. Alors je vois, jusque là c'est clair, je vois votre question. Alors ça veut dire donc que le Dieu créateur est un Dieu qui se diminue pour... Mais c'est ça la Gemara. Ce qui est un blasphème absolu pour la pensée philosophique, c'est la définition de la piété pour la pensée biblique. Savoir que Dieu a laissé une place dans l'être pour autre que lui, c'est-à-dire moi, c'est-à-dire la créature. Il y a donc une relation de Yirat Shamaim dans les deux sens. En Dieu, créateur, c'est la mida de Gevura, et en moi, respectant sa volonté, c'est la mida de Yirat Shamaim Pshat. Entre nous, il y a Shamaim. Si je traverse Shamaim, avant que j'en ai le droit, avant que j'en ai le mérite, alors il y a blasphème. Et si Dieu traverse Shamaim avant que je puisse supporter, avant que je puisse mériter, il y a chiloul. Vous comprenez? Chiloul. Bon, je pense que maintenant cette notion est bien. Il faudrait qu'on rentre là dans la catégorie d'ordre moral. Comme s'il y avait un écran nécessaire pour que mon existence soit préservée. C'est Shamaï. Donc, Yirat Shamaï. On va un peu approfondir cela, si vous voulez. Dans la mesure, pour répondre un peu profondément, dans la mesure où l'être de la créature est suffisamment moral, alors le Shamaïm se fait de plus en plus transparent. Alors il n'y a plus de danger. Et vous verrez énormément de textes à ce sujet, en particulier un chapitre célèbre des Shmona Pratim de Maïmonide. Parce qu'il dit il y a un massach, il y a un écran entre en haut et en bas. Cet écran est d'autant plus opaque qu'il y a moins de moralité en bas. Il est d'autant plus transparent qu'il y a plus de moralité en bas. La rencontre entre l'être de Dieu et l'être de l'homme est dangereuse s'il n'y a pas moralité. S'il y a moralité, alors elle est possible. C'est l'objectif de la Kedusha. C'est l'objectif de la Kedusha, de rendre cette présence possible. C'est-à-dire, après la faute, l'homme est enveloppé d'une tunique de peau. Alors qu'avant la faute, il était transparent, tout lumière. Oh, oh, je vous rappelle de cela. Bien, qu'est-ce que c'est cette tunique de peau? C'est précisément cette opacité à l'intérieur de laquelle l'homme est abrité. Parce qu'il y a faute. Mais s'il n'y a pas faute, cette opacité peut disparaître, il peut y avoir transparence. Il n'y a plus danger. Ce que vous suivrez d'ailleurs dans énormément d'enseignements à propos de ce même thème. Bon, on a un peu mieux compris ce que c'est que Yirat Shamaï.
Au niveau d'Amalek, vous avez dit de faire un peu un sous Amalek et de revenir sur le problème qu'on avait au début du cours, sur la question de la première Mishnah, le premier. Le principal là. Je vous dis qu'on reviendra à la fin du cours.
Il y a deux questions, relativement à la première question.
Vous avez dit que je vous ai rappelé de lire un Chédou sur Amalek.
Ça y est, oui. Mais comment ça se rattache au sujet d'aujourd'hui? C'est à propos de quelle question? Oui, mais c'est à propos de quelle question?
À propos du séminaire
cette fois. Oui. Vous voulez quand même le rattacher à ce qu'on a étudié ce matin. C'était à quel moment qu'on a fait?
La double
Bon, je ne me rappelle plus très exactement, mais je vais reprendre le thème lui-même. Vous vous souvenez, hier soir, ce qui se trouvait dans la salle avec nous, il avait été posé une question: est-ce qu'une collectivité peut être mauvaise? Rappelez-vous de cela. La réponse que j'avais donnée dans l'ordre de l'enseignement du Rav Kook, c'est que, en tant que Klal, la racine de tous les êtres individuels dans son projet, comme Dieu l'a créé, au niveau du projet du Créateur, donc l'être clali d'une collectivité est en lui-même kadosh. Ce n'est que dans le monde d'en bas, au niveau de la multiplicité, à l'échelle des individus, qu'apparaît la distinction entre le bien et le mal. Par conséquent, il faut faire une différence entre une totalité, une société comme somme totalité des individus, et d'autre part, le projet d'identité clali qui concerne ces individus comme individus d'une collectivité. Est-ce que c'est suffisamment clair? Et que le clan en lui-même est Tahor, Kadosh, c'est au niveau du Prat qu'il peut y avoir Tzadik ou Racha. Tout le monde avait compris ça. Et ensuite, dans la conversation que nous avons eue après, me revenait à l'esprit un enseignement du Rav Kook, extrêmement important, puisque nous sommes dans le temps de Hadar, Purim, Amalek. Et le Rav Kook a enseigné ceci. Il y a un midrash qui nous dit qu'au moment de la sortie d'Égypte, vous avez cité le Shirat Hayam, le chant de la mer, et les Hébreux, sous la direction de Moïse et aussi Myriam de son côté, ont chanté le chant de la mer. Az Yashir Moshe Bnei Israël. Mais le midrash nous dit que pendant et le passage de la mer Rouge, les anges aussi ont voulu chanter. Et que Dieu a interdit aux anges de chanter. Le Midrash continue en disant, c'est un Midrash juif. Il dit comment mes créatures sont en train de mourir et vous, vous voulez chanter. Bon, c'est la raison pour laquelle, comme vous savez, on ne dit pas là, le complet, les... sauf le premier jour de Pessah. En tout cas, pas à Chevilly chez le Pessah.
Vous savez.
Okay. On ne dit pas le Hallel complet. Et puis, d'autre part, vous savez aussi que les premiers-nés doivent jeûner, puisque le prix de la délivrance d'Israël a été la mort des premiers-nés d'Égypte. Mais tout ça, ce sont des rites et des midrashim juifs. On ne les trouve pas chez les Égyptiens. Et alors, l'objection sur le midrash était la suivante. Mais pourquoi Dieu a interdit aux anges de chanter, alors qu'il a permis aux Hébreux de chanter? La différence, c'est que les anges sont dans le monde d'en haut. Et dans le monde d'en haut, tout est kadosh. C'est dans le monde d'en bas qu'il y a les bons et les méchants. Mais dans le monde d'en haut, à la racine, tout est kadosh. Même l'identité clalite de l'Égypte. Est-ce que c'est clair? Et il a donné le verset suivant. À propos de, ça va à l'extrême limite. À propos de Amalek lui-même. De Amalek qui apparaît, puisque la question a été, mais est-ce que l'identité clalite de Amalek n'est pas le mal absolu en lui-même?
Ou de Yad qu'on a cité ça.
Comment?
Ou du sens de Yad.
Ah oui, c'est ça.
Il y a dit, tout est kadosh. Comment se fait-il que les malachim ont voulu chanter? Il a fallu l'interdiction de Dieu pour leur...
Oui, je répondrai à ça tout à l'heure, je finis l'analyse. Et alors, le Rav a cité le verset concernant Amalek. Timche et Zecher Amalek mitachat la shamayim, lo lemar la min shamayim. Je veux dire, d'ailleurs, pour être fidèle à cet enseignement, il a dit ça en ajoutant 20 interrogations. Okay? Mais je vois bien, on a bien vu son intention d'enseignement. C'est de dire que peut-être, bon, j'ajoute peut-être, point d'interrogation, que le Shoresh, du Shoresh, plus haut, beaucoup plus haut, et de Amalek lui-même, c'est Kadosh. Ce n'est que quand ça arrive en bas que c'est Racha. Vous voyez jusqu'où cela va. Donc c'était à ce propos. Hein? C'est qu'en réalité, et pour avoir la compréhension positive des termes et des catégories dont parle la Torah, il faut les comprendre dans l'enseignement du Lashon HaKodesh, au niveau ces réalités comme elles sont là-haut, dans le projet du Créateur, et non pas l'inverse. Et non pas l'inverse, prendre la définition en bas et parler des choses en Dieu par comparaison, ce qui est l'erreur de l'anthropomorphisme. C'est clair, hein? En fait, je vous parlerai un peu de l'origine de Amalek, après je reviens au problème. Et la Gemara dans Sanhedrin, page 90, et explique la naissance de Amalek de la manière suivante. Lorsque Israël est arrivé dans le pays de Canaan, à la sortie d'Égypte, Lorsqu'Israël est arrivé dans le pays de Canaan, à la sortie d'Égypte, le pays de Canaan était occupé par des occupants du pays, un peu comme ça se passe maintenant d'ailleurs, et en particulier, il y avait la tribu des Chorites. Et la Gemara a établi une règle, c'est qu'il ne fallait pas changer les habitudes de l'agriculture que les Chorites avaient installées dans le pays. À propos de cela, alors il y a toute une histoire. Une des princesses des Chorites s'appelait Timna. Et cette princesse a voulu, apprenant qui était Israël, a voulu, et elle vivait au temps d'Abraham, apprenant qui était cette identité qui, à partir d'Abraham, va devenir Israël, a voulu entrer en Israël, mais à une condition, d'être la femme d'Abraham. Et Abraham la refusa. Alors elle est allée voir Yitzhak, et Yitzhak la refusa. Elle est allée voir Jacob, et Jacob la refuse. Et donc c'est un thème d'identité. C'est donc un thème d'identité.
Elle s'appelle Kina, ça ?
Non, Timna. Je vais mettre un tableau, après je reviendrai sur la même.
Un tableau, non?
Avec un tableau. Timna.
Timna.
Achot l'otan, Timna.
Fin de la 9e bande.